Alors bonjour, bonjour à tous. Nous allons commencer à notre session sur l'art et le numérique avec deux intervenants qui sont autour de moi et qui ont des profils bien, bien différents. Notre premier intervenant est Olivier Alexandre. C'est un sociologue des médias, de la communication, du numérique. Vous pourrez nous préciser tout ça. Et il va nous faire part de ses réflexions sur la place qu'occupe le numérique aux États-Unis, puis peut-être plus précisément à San Francisco, hein, et dans les milieux créatifs. Alors, son intitulé, moi, m'a paru quand même beaucoup, très énigmatique, mais je vais en savoir plus tout à l'heure. Évolution par évolution, San Francisco, quand un artiste chasse l'autre. Donc, bon, on va découvrir son point de vue sur le sujet. Je suis très curieuse. Alors, notre deuxième intervenant, c'est Miguel Chevalier. C'est un artiste numérique, un pionnier hein, aussi, et un artiste reconnu internationalement, et qui, lui, dialectise le numérique au patrimonial. Il va nous montrer certains de ses travaux. Et c'est quand même un savoir-faire très, très talentueux et qui, sans doute, hybride ces deux cultures de l'ancien et du futur, en quelque sorte. Donc, je vais quand même commencer tout de suite, parce que l'intervention initiale doit être très, très brève, à passer la parole à notre collègue sociologue pour qu'il nous parle de son intervention.
Oui, merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Merci évidemment pour cette invitation à parler de la situation de plus exactement de l'industrie du numérique, ce qu'on appelle la tech aux États-Unis, et de son implantation dans la ville de San Francisco, avec un titre effectivement un petit peu sibyllin, tiré d'une installation artistique au Burning Man, qui est un festival, un grand happening dans le désert du Nevada qui a lieu chaque année et qui, à mon sens, résume bien les enjeux aujourd'hui dans la ville de San Francisco. Alors, un mot tout d'abord pour poser le cadre hein, de ce que représente aujourd'hui l'industrie du numérique en termes de volume de données, uniquement... par minute, hein, 150 millions de mails envoyés, 2,4 millions de recherches sur Google. Mais si je vous ai mis cette infographie, c'est surtout pour montrer ou pour sensibiliser au fait qu'on présente très souvent l'industrie du numérique, le numérique, à travers la flèche du temps. Là, en l'occurrence, c'est la minute, mais on a tout un tas de métaphores autour de l'heure du numérique, de l'ère du numérique, de la transition numérique et aussi de la révolution numérique, ce qui amène un petit peu à occulter un certain nombre d'enjeux, notamment des enjeux territoriaux. Et en l'occurrence, quand on a affaire à l'industrie du numérique, on a affaire à un espace très précis aux États-Unis, qui est celui de la Silicon Valley, qui est aujourd'hui non seulement un espace d'attraction extrêmement puissant, mais qui est aussi devenu, depuis quelques années, un espace et un objet de narration. Là, en l'occurrence, je vous ai pris une image tirée de la série Silicon Valley, produite par HBO. Et on a aussi un certain nombre de livres, de films produits par Hollywood. Les livres consacrés à l'univers de la tech, à ces entrepreneurs, sont devenus des hits de librairies, notamment d'aéroports, et également une place grandissante dans les médias. Ce qui amène à avoir un point de vue relativement ambivalent sur la vallée, soit des critiques très fortes, soit une apologie aussi qui manque parfois un petit peu de distance et qui amène à des réductions, notamment quand on regarde la vallée de l'autre côté de l'Atlantique. Pour avoir une représentation un petit peu plus précise de ce qu'est réellement la Silicon Valley en termes d'industrie, il faut tout d'abord voir que ce qui nous apparaît comme un confetti de territoire est en réalité un espace relativement étendu, à géométrie variable, qui a sa propre histoire, hein, sa propre historicité, qui court en gros du nord au sud sur une centaine de kilomètres et de l'ouest à l'est sur plus de 150 kilomètres, ce qui se traduit très concrètement physiquement quand on y est, par 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'embouteillage pour gagner un point à l'autre. Donc on n'est pas du tout dans un espace social extrêmement réduit, on est plutôt dans un espace physique diffus, dont les centres de gravité tendent à se déplacer hein, historiquement. Le premier centre, le cœur, le poumon de la Silicon Valley, c'est l'université de Stanford, donc fondée en 1885, qui devient à partir de 1930, avec deux étudiants, Hewlett et Packard, un trait d'union tout à fait fondamental entre les milieux de la recherche, les milieux de l'industrie, les milieux de l'investissement public, notamment l'investissement militaire. Hewlett et Packard, si je me permets de nommer ces deux ingénieurs innovateurs de formation, c'est parce qu'ils vont jouer un rôle culturel extrêmement important dans la Silicon Valley, dans le type d'industrie, dans le type de culture d'entreprise dont notamment va beaucoup s'inspirer Apple. Donc ce cœur, ce poumon de la Silicon Valley, se déplace aujourd'hui depuis 2011, depuis la fin des années 2000, début des années 2010, se déplace vers la ville de San Francisco. Pour plusieurs facteurs, un facteur technologique, un facteur politique et un facteur économique. Alors le facteur technologique qui est assez connu par ces univers, c'est le déplacement du foyer de valeur de la tech industrie depuis le hardware, c'est-à-dire les ordinateurs, les machines, les semi-conducteurs. C'est l'origine même du nom Silicon Valley, le silicone utilisé pour produire les semi-conducteurs. Passe donc du hardware au software, ce qui permet de naviguer dans une machine et entre les machines, et également dans l'ensemble de l'univers numérique. Ce qui renvoie à la phrase de Marc Andreessen, qui est un influenceur, un investisseur, qui a une place tout à fait centrale dans la Silicon Valley. « Software is eating the world ». Facteur politique ensuite, au début des années 2010, donc en 2011 très exactement, vous avez la mairie qui a mis en place une mesure qui est rebaptisée Twitter Tax Break, qui représente aujourd'hui une enveloppe située entre 30 et 40 millions de dollars. Et l'idée pour la municipalité, qui était relativement désargentée à l'époque, était de faire de la politique publique sans investissement public. En attirant les industries de la tech, notamment dans l'hypercentre de San Francisco, qui concentre depuis les années 80, pour une série de facteurs historiques, des populations particulièrement vulnérables, les homeless, des gens qui ont parfois, voire souvent, une série de problèmes d'addiction aux drogues, une série de pathologies mentales aussi, ce qui fait ce qu'on appelle à San Francisco le freak show, l'hypercentre de San Francisco. L'idée ici, avec l'implantation et motiver l'implantation des grandes entreprises de la tech, de nettoyer, et je le dis entre guillemets parce que c'était le terme et la philosophie de la politique à l'époque mise en place, de nettoyer le centre de San Francisco. Troisième facteur d'ordre économique, vous avez eu, à la suite de la crise financière de 2008, crise immobilière, et plus encore à partir de l'entrée en bourse de Facebook en 2012, une entrée en bourse qui a été réussie, mais souvent ratée par les investisseurs qui n'ont pas cru dans le fait que Facebook puisse être une valeur solide boursière, vous avez eu une inflation des investissements dans l'industrie de la tech, ce qui a débouché à cette situation relativement nouvelle pour la tech, d'attirer non plus des capitaux, enfin de vivre en vase clos d'un point de vue capitalistique, mais aussi d'attirer de l'argent du monde entier, pas seulement de Wall Street, mais aussi de l'Asie, beaucoup à travers des fonds souverains, la Chine, l'Indonésie, le Japon ou la Corée. Ce qui s'est traduit par un afflux d'argent extrêmement important et aussi par une création d'entreprises extrêmement importante. Aujourd'hui, San Francisco et la Silicon Valley représentent 300 000 employés, ce qu'on appelle des gens qui travaillent dans la tech, des techies, et un peu moins de 15 000 entreprises. La ville de San Francisco étant devenue le cœur et l'épicentre de la Silicon Valley, d'une part pour la raison politique que je viens de citer, mais aussi parce que ces techies sont souvent des personnes jeunes qui cherchent un mode de vie urbain et à bénéficier, à jouir des opportunités que peut offrir une ville comme San Francisco comparée à la Silicon Valley qui a un mode de vie beaucoup plus banlieusard. Alors, il y a tout un tas de travailleurs. Les gens qui travaillent dans la tech, ce n'est pas seulement des informaticiens. Vous avez des avocats, vous avez des investisseurs, vous avez des journalistes. Dans le domaine de la machine, vous avez des data analystes, vous avez des designers. Et le cœur de la valeur, les gens qui sont le plus valorisés dans cette industrie, ce sont des développeurs, des gens qui codent. Alors, vous avez différentes familles, vous avez différents lignages dans ce groupe de codeurs qui sont plus ou moins valorisés, mais le point commun étant à la fois de concerner des gens très jeunes, soit qui sortent du collège, soit qui viennent d'abandonner le collège, et qui sont vraiment considérés dans la Silicon Valley et à San Francisco comme des rock stars, voire comme des artistes. C'est l'idée, la philosophie poussé par Paul Graham, qui est une figure aussi très importante, qui a investi dans des entreprises comme Airbnb ou comme Dropbox, et qui dès le milieu des années 2000, a engagé un processus qu'on connaît dans d'autres secteurs culturels, d'artification de la programmation informatique. D'autres vont encore plus loin, en considérant que ces programmateurs, ces codeurs informatiques sont des véritables juristes, dans le sens où l'architecture du net a pris une telle importance qu'elle en est arrivée à rendre obsolètes les cadres de régulation traditionnels de l'État-nation et jusqu'à court-circuiter de possibles régulations politique. Une thèse très forte, portée par notamment le professeur de droit Laurence Lessig depuis une quinzaine d'années, et qui est une thèse, enfin les deux thèses hein, presque, hein, la thèse de l'artification, considérer que les programmateurs, que les ingénieurs informatiques sont des artistes ou des juristes, qui est une thèse à laquelle on peut essayer de souscrire à partir du moment, et j'insiste sur cette idée, où on envisage le monde de l'ingénierie comme un atelier. On a parlé un petit peu d'atelier ce matin, c'est-à-dire qu'on a affaire à un travail relativement rébarbatif, relativement itératif. On répète beaucoup, on dit, c'est l'expression, on mangeait du code, et qui représente un certain nombre de manqués. Hein, beaucoup. Derrière l'innovation, il y a énormément de ratés, d'approximations. Les gens codent mal, très souvent, parce qu'ils ont besoin de coder trop vite pour sortir des démos, pour sortir leurs services, pour sortir leurs produits. Une ambivalence, une ambiguïté, une différenciation des activités qui est comprise même dans le terme « hacker ». Hacker, en Europe, en France particulièrement, on a retenu le sens romantique de pirate. En réalité, pour les ingénieurs, hacker, ça veut dire programmer, premier sens, pirater effectivement, et troisième sens, coder mais mal coder, faire du code sale, comme ils disent. La dimension artistique ou la dimension symbolique devant aussi être différenciée, dédoublée, divisée, puisque en fait, au-delà même de l'activité de codage, vous avez toute une activité discursive, donc on appelle le storytelling, mais qui n'est pas vraiment du storytelling à la Christian Salmon, hein, l'espèce de manipulation mentale à travers du discours. Dans le cadre de la Silicon Valley et de San Francisco, il s'agit vraiment de construire un répertoire du discours qui va vous permettre à la fois de présenter votre projet, de vous distinguer dans une situation de concurrence extrêmement intense. Puisqu'à San Francisco, tous les mois, vous avez, voire toutes les semaines, tous les jours, vous avez des gens qui arrivent du monde entier pour essayer de financer leur projet. Et dans la grande tradition san-franciscaine, hein, celle de la ruée vers l'or, les gens qui font fortune dans cette économie ne sont pas toujours ceux qui essayent de produire, de vendre des services, mais plutôt ceux qui vendent les pics, les bâtons de dynamite à ceux qui cherchent de l'or. Là, en l'occurrence, je vous ai mis la photo de Guy Kawasaki, qui s'est fait une spécialité dans des conférences, la vente de conseils, l'écriture d'ouvrages sur comment pitcher, comment présenter son projet et comment convaincre ses audiences qui sont diverses, hein, qui peuvent être à la fois des investisseurs, principalement, ensuite des employés et enfin des clients. Ce répertoire hein, discursif, à mon sens, on peut dégager trois grandes entrées qui vont du plus micro au plus macro. La première chose, c'est le pitch. Alors là, si jamais vous avez envie de devenir entrepreneur à San Francisco, vous avez des règles, des conventions, comme dans les domaines artistiques, qui sont extrêmement précises. En l'occurrence, on pitch en 5 minutes, avec 10 slides, avec une construction en 4 temps. C'est-à-dire qu'on présente son problème, ensuite la solution qu'on propose, l'équipe qui va vous accompagner pour y arriver, et ensuite les métriques, c'est-à-dire le potentiel de développement commercial que représente votre solution technique. Les gens qui ont un peu d'expérience à San Francisco, dans la vallée, qui ont un peu de bouteille, savent très bien qu'un pitch, pour être efficace, doit être adossé à ce qu'on appelle une story, une narration, un récit de vie, dont le point central est un accident. Ce que Jean-Paul Sartre appelait un apax existentiel, ça peut être une rupture de vie, un accident, la perte d'un proche, un événement historique comme la chute des tours du World Trade Center, qui vont vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire dans le monde. La, l'idée utilitariste, c'est d'arriver à démontrer à vos interlocuteurs que vous avez les reins solides, que votre engagement entrepreneurial correspond à un engagement existentiel total, un petit peu comme les artistes. Et cette story, cet engagement total, va être consacré, en l'occurrence, à la réalisation d'une mission, d'un objectif qui est à la fois quelque chose, souvent présenté par les entrepreneurs, comme de très personnel, mais qui va permettre de mettre en ordre de marche tout un collectif qui peut représenter plusieurs milliers d'employés. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis différentes missions des grandes entreprises de la tech, qui sont toutes différentes, qui correspondent à des secteurs spécifiques, mais qui ont toutes pour point commun de viser un marché global. Là, c'est une photo prise dans les rues de San Francisco pour vous montrer à quel point cette idée de globalité du marché visé est quasiment sur les murs, pas seulement dans la tête, mais elle est omniprésente, quelque chose qui va de soi. Un entrepreneur me disait que la différence qui existe entre une start-up française et une start-up à San Francisco, c'est la même différence qui existe entre Jean-Pierre Mocky et Hollywood. Sous-entendre que Jean-Pierre Mocky, quand il fait un film, il écrit le scénario, il fait ses repérages, il embauche les comédiens, il joue dans son film, il tient la caméra, ensuite il monte, et ensuite il va à la télévision vendre son film. Hollywood, c'est pas la même chose. Hollywood, c'est une division du travail élargie qui pense l'objet pour conquérir un marché mondial. C'est un petit peu la même chose à San Francisco. La conséquence, mais quasiment qu'on peut palper au sein de la ville, c'est de créer des effets d'enchantement sur les gens qui sont engagés dans ce secteur, des effets d'enchantement extrêmement puissants. Et d'ailleurs, ce qui amène d'ailleurs à... si vous essayez de comprendre ce qui se passe aujourd'hui à San Francisco et dans la vallée avec Max Weber, ça va être un petit peu compliqué. Parce que l'éthique protestante... je ne doute pas qu'il y ait une éthique à San Francisco aujourd'hui, mais alors elle est très loin d'être protestante. Par ailleurs, le désenchantement du monde... c'est quelque chose aussi qui laisse relativement sceptique quand on voit ce qui se passe. Et on peut s'intéresser de ce point de vue-là aux formules, aux symboles, aux métaphores qui sont utilisées pour qualifier les objets, les personnes, les processus au sein de la tech industry. Le premier, le terme le plus populaire, c'est celui de licorne. Une chimère, mais qui correspond à un objet réel dans la tech industry. Ce sont ces startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Vous avez également des géants du net, voire des titans du net en l'occurrence. Vous avez aussi des tech angels, ce sont ces personnes que vous allez rencontrer au début de votre carrière en arrivant à San Francisco et qui vont investir un petit peu dans votre entreprise et vous aider, vous donner quelques conseils, vous orienter en espérant que vous soyez un cheval gagnant. Et plus généralement, vous avez vraiment une porosité entre une pensée d'ingénieur, donc vraiment logique, voire relativement aride, et ce que les anthropologues, depuis Malinowski, appellent la pensée magique. L'une et l'autre étant vraiment tournées vers le futur. Quand on est observateur de tout ça, je ne vais pas vous mettre la slide longtemps, sinon vous allez devenir fou, mais quand on est observateur de tout ça, on a un effet de malaise, un petit peu, au bout d'un moment. Un effet de malaise, aux deux sens du terme, parce qu'il y a un jeu sur les perspectives très fortes, c'est-à-dire que quand on est à San Francisco, déjà, notre esprit n'est jamais là où on est, c'est-à-dire qu'on pense toujours à demain, à dans 2 ans, à dans 3 ans, à dans 5 ans, à dans 10 ans, puisque c'est la perspective de lancement du marché. Des effets de volume aussi extrêmement rapides, extrêmement variables. Vous avez des entreprises qui apparaissent, des entreprises qui disparaissent à très courte échelle de temps, par exemple pour prendre Uber, la moitié des gens qui travaillent aujourd'hui dans la tour d'Uber à Market Street n'étaient pas là il y a 8 mois. Uber, aujourd'hui, achète tous les trimestres un étage supplémentaire dans sa tour et est en train de construire le premier campus dédié entièrement à une entreprise dans la ville de San Francisco. Ça, c'est la première forme de malaise, mais qui est plus de l'ordre du vertige. La seconde forme de malaise, c'est le fait de se dire effectivement no more nonsense, c'est-à-dire que la tech qui se présente comme évangélisatrice, promesse de meilleur, est en fait, à commencer par les entrepreneurs et les ingénieurs, bien souvent une promesse d'échec. C'est l'industrie aux États-Unis qui a le plus fort taux d'échec pour ces entreprises, qui tiennent à différents facteurs qu'on pourrait décliner, hein, mais plus de la moitié des entreprises ne dépassent pas les 4 ans. Et ce qui crée, derrière le côté jovial, friendly, très enthousiaste de la vallée de San Francisco, qui crée tout un tas de syndromes pour les gens qui sont engagés, dont on parle d'ailleurs assez peu, hein, puisqu'il y a un retournement du stigmate dans la ville de San Francisco, où l'échec est plutôt célébré, sur le mode « il faut passer par l'échec pour réussir à vaincre ». En réalité, vous avez tout un tas de pathologies que les gens se traînent un petit peu et qu'on voit très bien apparaître dans les entretiens. Alors vous avez différents cas que je ne vais pas décliner. Peut-être les plus significatifs, c'est les panic attacks. Hein. C'est ces entrepreneurs qui sont écrasés par le niveau de pression que leur entreprise représente. Par exemple, Brian Chesky, le CEO de Airbnb, dit se réveiller toutes les nuits avec une crise de panique. Ce qui représente une souffrance au travail, d'un milliardaire, d'accord, mais une souffrance au travail tout de même. Un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est le syndrome de l'imposture pour des ingénieurs, des programmateurs qui se retrouvent à 25, 26 ans dans des positions de responsabilité extrêmement importantes sans toujours avoir ni l'expérience, ni les capacités ou les compétences sociales ou morales pour tenir ce type de rôle-là. Et parfois même sans avoir les compétences techniques, puisqu'on est dans un monde d'obsolescence des savoirs extrêmement rapide, ce qui crée des situations de doute par rapport à leurs propres compétences. Donc là, je vous parle vraiment à l'échelle individuelle, mais on pourrait élargir le propos, faire comme le fait la sociologie morale, s'intéresser aux points d'appui critiques, voire autocritiques, de la tech vis-à-vis d'elle-même. Et là, vous retrouvez tout un tas de variables extrêmement classiques dans les sciences sociales, qui nous montre bien que la tech, derrière son idéologie relativement universaliste de progrès, est en fait un univers très inégalitaire. Là, je vous ai mis les données en termes de genre. Donc, c'est un univers très majoritairement masculin. C'est vrai également en termes d'appartenance ethnique. Alors, nous, les Français, on est toujours un petit peu mal à l'aise avec ce type de codage, d'encodage de la réalité sociale. Mais les Américains, ils sont extrêmement sensibles. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que ces données, déjà, sont très inégalitaires, mais en plus, sont faussées. Puisqu'en fait, pour tout ce qu'on appelle les minorités ethniques, sont des gens. Les entreprises de la tech essayent de les recruter pour faire gonfler leurs chiffres, mais en fait, leur donnent des missions de. Surveiller l'entrée, s'occuper de la cantine, enfin voilà, plutôt des métiers d'opérateurs assez peu prestigieux. C'est vrai aussi en termes d'âge. Vous avez un generation gap à San Francisco, dans la vallée, mais là qui est inversé à ce qu'on connaît en Europe. Hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas les jeunes qui essayent de forcer la porte d'entrée, ce sont plutôt les seniors qui essayent de conserver un pied dans la porte pour rester dans cet univers. Si on prend un peu de recul encore et qu'on s'intéresse à l'impact directement de l'industrie de la tech sur la ville de San Francisco, sur son territoire d'implantation, là vous avez tout un nombre de désutilités criantes, extrêmement importantes. La première d'entre elles, c'est évidemment la question du logement et du mal logement, avec un niveau de corrélation très clair entre les valeurs de la tech et le niveau des loyers, en sachant que la ville de San Francisco, pour des raisons historiques, est une des villes où il y a le pourcentage de locataires est le plus important. Donc, a priori, qui sont très sensibles aux évolutions du marché du logement. Une évolution qui place aujourd'hui la ville de San Francisco tout en haut du sommet des loyers aux États-Unis et dans des proportions très importante. Aujourd'hui, un appartement d'une chambre se négocie autour de 3 200 $ à San Francisco, avec une parité quasiment euro-dollar. On est à 2, 3, voire 4 fois les prix parisiens. Et il faut savoir également qu'on se situe sur un territoire extrêmement spécifique, puisque la ville de San Francisco est, comme vous le savez, entourée par des eaux. Qu'il y a un cadre de régulation extrêmement sévère qui empêche de construire des buildings à plusieurs étages. Hein. L'image que San Francisco vend au monde, ce sont ces petits condominiums, hein, ces petits appartements où il y a une ou deux familles qui vivent à l'intérieur. Et donc la variable d'ajustement, par rapport à cette situation, ce sont les expulsions. Puisqu'il y a une loi à San Francisco qui permet pour un propriétaire d'expulser l'ensemble de ses locataires s'il souhaite transformer son bien, soit en espace de coworking, soit en faire une maison individuelle. Ce qui s'est traduit par une augmentation assez considérable des expulsions ces dernières années. Vous avez là encore une corrélation très nette entre le Twitter break et l'augmentation, la reprise des expulsions, qui ne sont pas un phénomène nouveau, mais qui s'intensifient ces dernières années, dont une des populations, la première concernée, est celle des artistes, qui représente un nombre important de la population san-franciscaine. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière qui révélait que 70% des artistes à San Francisco avaient été victimes ou fait l'objet de displacement, de déplacement, soit liés à leur lieu de travail, soit liés directement à leur logement. La conclusion, la conséquence de cette évolution, exactement, c'est de transformer l'espace public san-franciscain comme un lieu de conflit symbolique. Et quand je dis espace public, ce n'est pas l'espace public habermasien, ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment l'espace public, celui des rues, celui des cabarets avec les chanteurs, celui des murs. Vous avez tout un mouvement de... C'est l'heure du grillon. Vous avez tout un mouvement de représentation et d'assignation, d'assignation contre la tech, les techies. Et puis, quelque chose de plus connu, c'est l'utilisation du répertoire artistique pour développer des mobilisations, des actions politiques. Là, en l'occurrence, je vous ai mis l'image, une image qui a fait le tour du monde, celle du blocage d'un Google Bus il y a 2 ans. Et cette situation présentant comme paradoxe de mettre vraiment la puissance publique dans une position d'impossible médiation. Là, c'est une image prise au City Hall, hein, donc dans la municipalité de San Francisco, dans la mairie de San Francisco. Une position paradoxale puisque, en fait, l'industrie de la tech et les communautés artistiques partagent en commun une égale désaffection à l'égard du politique. Ce sont deux communautés, historiquement, qui se sont constituées, dos à dos vis-à-vis de la puissance publique, qui se trouvent aujourd'hui obligées, assignées, à trouver une solution, à créer un espace de dialogue entre ces deux puissances qui sont aussi deux récits. La dernière phrase de conclusion que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, la Silicon Valley et San Francisco plus généralement font vraiment figure de modèle au sens propre du terme, c'est-à-dire de modèle à dupliquer, à répliquer un peu partout dans le monde et notamment en Île-de-France. La chose que je voudrais juste rappeler en tant que sociologue, c'est que ce qui peut avoir l'air de modèle en termes économiques est aussi, par certains aspects, un contre-modèle en termes sociaux. De ce point de vue-là, il ne faudrait pas céder à un certain nombre d'excès de vitesse, pour citer Jean-Claude Passeron.
Merci beaucoup, Olivier. Tu nous as fait un panorama à la fois économique, technologique, sociétal. C'est certain que ces modèles économiques, ces modèles de la valorisation du tout profit, hein, extrêmement libéral, ont leur équivalent en termes de symbolisation. Et là, ça devient quand même relativement inquiétant. Je dois dire, dans tout ce que j'ai entendu dans la première partie du propos, enfin de ce que tu nous as raconté.